Édicte par le père Philippe à Saint-Jodard, le 30 janvier 90.
Le philosophe qui, grâce à son jugement de sagesse, peut contempler Dieu créateur, père de son autonomie, et artisan de toutes les déterminations, n'adopte-t-il pas une attitude, un état qui est le cœur de l'éthique religieuse? N'est-il pas nécessairement porté à faire le choix ultime d'une attitude non plus philosophique mais mystique au sein essayer de voir ça, parce que ça, c'est toute l'éthique religieuse. On verra dans quelle mesure ceci est juste ou pas. Et le philosophe analyse. Même l'éthique religieuse demande d'être analysée. Il n'y a que la mystique qui est au-delà de l'analyse. Alors, il faudra se poser la question, au terme, y a-t-il une mystique naturelle? C'est toute la question de Plotin, c'est toute la question qu'Olivier Lacombe a toujours posée, qui est une question très intéressante et importante, mais pour moi, c'est un appendice à l'éthique religieuse. On ne peut pas commencer par ça. Il faut toujours commencer par les problèmes les plus précis et les plus sûrs. L'attitude de savoir s'il y a une mystique naturelle, c'est une question très importante. C'est sûrement très important. C'est pas du tout négligeable. Mais c'est une question ultime. Il faut d'abord savoir exactement qu'est-ce que représente l'adoration et la contemplation de Dieu au plan naturel. Ensuite, on se pose la question de l'attitude, d'une théologie, d'une attitude mystique. Alors, vous pouvez le poser dès le point de départ, c'est intéressant. Il y a deux grandes questions sur lesquelles on peut-être porter toute l'acuité de notre jugement. La miséricorde, j'en ai pas parlé la dernière fois, la miséricorde est-elle une vertu relative à l'éthique religieuse ou au contraire à l'éthique chrétienne? Et la mystique, vous voyez, c'est les deux extrêmes. L'attitude à l'égard du prochain, l'attitude à l'égard de Dieu. Parce que dans la miséricorde, comme dans la mystique, il y a l'amour qui passe avant le point de vue du jugement, du point de vue de l'intelligence. C'est sûr. La miséricorde dépasse toute justice. Tandis que la vertu de religion demeure une partie de la justice. Tout à fait particulière, du reste. Tandis que la miséricorde, c'est au-delà. Ça relève de l'amour. Donc il y a un partage des eaux qui sera intéressant à voir. C'est une des questions, vous voyez. Et c'est bien de la poser peut-être dès le point de départ, parce que ça excite un peu votre attention. Et c'est pas commode du tout, hein, à répondre. Alors posez cette question. Dans l'éthique religieuse, nous avions vu la dernière fois un petit plan d'analyse. Je peux poser alors comme un spirituel et un mystique. C'est pas la même chose. Distinction toujours très importante à avoir. Ou est-ce qu'au contraire, l'attitude mystique est-elle propre à la vie chrétienne? Oui, c'est des questions qui seraient très intéressantes à regarder avec l'islam. L'islam a une éthique religieuse. Ça, c'est sûr. Dans l'Ancien Testament, je suis en présence d'une éthique religieuse. C'est sûr. Alors, est-ce qu'on atteint le point de vue de la miséricorde? Ou est-ce qu'on atteint le point de vue mystique? Dans quelle mesure? Oui. Est-ce que je pose des questions? Ces questions, ces apories. Est-ce que la miséricorde n'exige-t-elle pas le primat absolu de la charité? Est-ce que la mystique n'exige-t-elle pas le primat absolu de la charité? Est-ce que la miséricorde, comme la mystique, n'est-elle, ne sont-elles pas les œuvres propres de l'Esprit-Saint? Piété, le don de sagesse. Mais des questions importantes, hein, qui sont journalières pour nous. Alors, un autre encore aporie, si vous voulez, qu'on peut poser pour que vous voyez le problème important. Est-ce qu'une communauté religieuse est-elle fondée sur la miséricorde ou la justice? Toute communauté humaine se fonde sur la justice. Une communauté divine se fonde sur la miséricorde. Quand l'abbé Pierre disait dans ses conférences, il faudrait que les lois regardent, soient faites toujours à partir du plus pauvre. Est-ce juste en politique humaine? Ou est-ce que ce n'est vrai que par rapport à une communauté divine, l'Église? Ce sont des questions très importantes, vous voyez. Capitales, parce qu'autrement on fait des bêtises. C'est très important de se poser la question. Alors, est-ce que une communauté religieuse, il y a des communautés religieuses qui ne sont pas nécessairement chrétiennes. Les pythagoriciens étaient une communauté religieuse. Pour prendre dans la Grèce, il n'y a plus beaucoup de pythagoriciens aujourd'hui. Ça existe encore. Ça existe encore. Quand on va en Grèce, on retrouve quelquefois des pythagoriciens. La première fois que j'étais en Grèce, j'ai rencontré un professeur de mathématiques qui était pythagoricien. C'était très net. M'a demandé de promener avec lui le soir pendant quelques heures. On a promené ensemble et c'était net que toute son attitude est une attitude religieuse. Et qu'il avait une perspective très pythagoricienne. Le lien entre les mathématiques et l'attitude religieuse font assez facilement des pythagoriciens. C'est assez curieux, c'est assez intéressant du reste. C'est intéressant de retrouver un pythagoricien aujourd'hui. Enfin, ça m'a beaucoup intéressé, moi. Et la manière dont il m'a parlé, la manière dont il m'a quitté après ces quelques heures, oui, tout était combiné pour qu'on puisse voir l'acropole le soir à telle heure où je. ce que ça représente comme type. Bon, là, c'est des questions. S'il y en a d'autres, vous les noterez, vous voyez. C'est très bien. Je la note tout de suite, vous voyez. C'est vrai, il faut se poser la question. Est-ce que la contemplation philosophique, métaphysique de Dieu n'aboutit-elle pas nécessairement à Plotin? C'est le cas de Plotin. Plotin est-il une mystique naturelle? Ou une mystique surnaturelle? Comme mystique surnaturelle, il n'y a qu'une mystique chrétienne. Mais il peut y avoir des chrétiens qui vivent une mystique chrétienne sans le savoir. C'est sûr. Vous voyez, la distinction entre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. L'éthique religieuse repose sur le mystère du Créateur. L'éthique chrétienne repose sur le mystère de la rédemption faite par le Christ. Deux choses différentes. L'éthique chrétienne implique tout de suite la dimension de la grâce. L'éthique chrétienne, l'éthique religieuse, regarde l'homme dans sa dimension plénière. Alors, je vais tout de suite commencer. Je crois que la première chose dans une éthique religieuse, c'est notre attitude humaine face au Créateur. Ces diverses questions. Et c'est vrai qu'au point de vue liturgique, je vois qu'il y a une attitude de louange, une attitude de demande, une attitude d'adoration, une attitude d'action de grâce. C'était les quatre, si vous voulez. L'action de grâce, je remercie Dieu de m'avoir créé. Je remercie Dieu de faire qu'il y ait un soleil. Qu'il y a la lune pour se reposer, qu'il y a les étoiles, qu'il y a un petit cosmos, petite demeure. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu d'être là pour être mon gardien. Je demande à Dieu, puisque je vois toutes mes déficiences, tous mes manques, tous les périls, toutes les difficultés, toutes les luttes. Ou faut-il au contraire adorer? Je n'exclus aucune de ces attitudes. Je les constate. Et c'est vrai, c'est la première chose que je constate, c'est que en face du Créateur, il y a diverses attitudes. Regardez dans l'Ancien Testament les psaumes qui montrent bien une grande prière. Regardez dans l'Ancien Testament toutes les grandes prières. La prière de Judith. La prière d'Anne. Et certains prophètes. Alors je vois bien que cette attitude religieuse est commandée par quelque chose de très particulier. Il y a une grande espérance qui alors dépasse l'attitude religieuse, que l'attitude religieuse comme telle ne peut pas avoir. Mais je peux très bien découvrir dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, toute une attitude religieuse face au Créateur. Quand je regarde les livres de la sagesse, je vois qu'on regarde tout le gouvernement du monde dans la lumière du Dieu Créateur. Quand je regarde la Genèse, je vois que c'est avant tout le Créateur. Je découvre dans l'Écriture une richesse extraordinaire au point de vue de ce que représente l'attitude religieuse. J'ai le droit de puiser là-dedans. Après tout, ce livre m'est donné. Il est donné aux croyants, mais il est donné aussi à l'homme. J'ai le droit à un homme qui ne croit pas de lire, de lui dire « Lisez l'Écriture ». Et vous trouverez dedans des choses très précieuses. Je crois, et on va essayer de le justifier, que l'attitude première de l'homme face au Créateur, c'est l'adoration. Et c'est facile à comprendre. C'est que louer, remercier, demander, c'est une attitude que je peux avoir vis-à-vis des autres hommes. J'ai des bienfaiteurs. Des hommes qui sont plus âgés que moi, des hommes qui sont plus riches que moi, des hommes qui ont un pouvoir et une autorité beaucoup plus grande. Vis-à-vis de ces hommes, je peux les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je peux les louer parce qu'ils sont des bienfaiteurs insignes. Je peux leur demander, leur exposer mes misères. Mais je ne peux pas les adorer. Il y a donc un acte propre de l'homme vis-à-vis du Créateur et qui n'est légitime qu'à l'égard du Créateur. Si, du moins, j'essaie de comprendre ce qu'est l'adoration. Donc l'adoration est l'acte. Vis-à-vis de Dieu. Alors que les autres, non. Je peux développer en moi la louange, mais je peux louer aussi des gens qui sont... Il y a des fêtes populaires où on loue le président de la République, où on loue des savants, des génies. Et l'hymne national, c'est la louange, c'est une liturgie. Surtout quand elle est jouée par des militaires. Alors c'est une liturgie qui engage les gens à aller toujours plus loin. Donc c'est une fête nationale, c'est une liturgie nationale de piété filiale. Il y a des fêtes de famille où on loue les grands-pères. Un grand toast de louange. Et s'il y a un petit fils qui est un peu poète, il fait à cette occasion-là une hymne extraordinaire, familiale, pour montrer tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu. Tout ça est humain. Ce n'est pas strictement religieux. La louange n'est pas strictement religieuse, elle est humaine. La reconnaissance n'est pas strictement religieuse. La demande n'est pas strictement religieuse. La dévotion n'est pas strictement religieuse. Alors, vous me direz tout de suite, vous auriez dû traiter ça en éthique humaine. Oui, c'est très vrai. Au niveau politique, au niveau familial. Parce que c'est l'extension de l'éthique humaine au niveau famille et politique. On loue un grand homme, on lui fait des statues, on lui fait presque des temples. C'est vrai, il y a des lieux libérateurs. Et chaque année, à l'époque, on le loue. Et il y a une flamme qui brûle tout le temps. Ça existe. Qu'est-ce qui caractérise l'attitude religieuse? C'est l'adoration. Alors, ça me semble net. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Seul celui qui adore sait ce que c'est que l'adoration. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui n'adore pas ce que c'est que l'adoration. Mais c'est très important, ça, de se rappeler ça. Il y a des actes qu'on ne découvre que de l'intérieur. Que les autres diront, oh, l'adoration, c'est qu'on se met à plat ventre. Et on s'endort. Là, c'est pas l'adoration, ça. C'est la caricature de l'adoration. L'adoration, c'est celui qui se met à genoux. Mais non. Il y a des chameaux qui se mettent à genoux. C'est pas l'adoration. Ils s'en font la caricature. L'adoration, c'est une attitude intérieure. Donc seul celui qui adore sait ce que c'est que l'adoration. Ah, vous êtes farouche là-dessus. Hein. Comme seul celui qui sait aimer sait ce que c'est que l'amour d'amitié. Pour moi, l'enfant, la caricature. Il y a une éclosion de l'âme qui se fait, dit Brujon. Qui se fait dans l'adoration. Mon âme devient religieuse en adorant. Avant, elle ne l'est pas. Donc, vous voyez, et c'est très important, ça. On devient religieux. On devient une âme religieuse. Comme on devient une âme capable d'aimer et capable d'être intelligente. Ça s'acquiert, l'intelligence. Et la capacité d'aimer aussi. Et la capacité d'adorer aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acte d'adoration? L'acte d'adoration repose sur une connaissance d'une réalité spirituelle, d'une personne. Personne qui est source de mon être, de ma vie, de mon intelligence, de ma capacité d'aimer. Je reconnais cela et je reconnais que cette source cachée reçoit tout tel. Actuellement, je suis donc dans une dépendance radicale vis-à-vis de cette source, qui est une personne. Une personne qui agit sur moi avec sagesse, dans la lumière et l'amour, en pleine liberté. Une personne qui me communique l'existence, qui me communique la vie, l'intelligence et l'amour. absolument librement, à laquelle je ne peux rien ajouter. C'est purement gratuit qu'elle fait ça, dans une gratuité absolue, une gratuité unique. Personne d'autre n'agit de cette manière. La gratuité, dans ce cas-là, de tout à fait absolu, caractérise le Créateur. Donc, je n'en ai pas une expérience directe, mais je l'affirme, ça ne peut pas être autrement. Je n'ai pas une expérience directe de cette source d'où jaillit mon être. Je ne peux pas avoir cette expérience, mais je dois l'affirmer. Et je peux l'affirmer en fonction de toute mon enquête philosophique. Et toute mon enquête philosophique est ordonnée à ça. Elle est pour me permettre de découvrir cette dépendance radicale à laquelle je suis à l'égard de l'être premier. Oui, la philosophie se termine dans une connaissance éminemment pratique, mais d'un pratique qui dépasse tout et qui rejoint le point de vue le plus profond, le plus intérieur de moi-même. Ça, c'est très important. La philosophie part de quelque chose de concret. Ceci est. Et elle aboutit à quelque chose de concret. Je suis, dans tout mon être, totalement dépendant d'un acte créateur de Dieu. Complètement dépendant de cette source. Et je découvre cette source. Et cette source m'est présente. Elle est source de mon être. Elle me tient. Elle me porte. Je suis dans ses mains, si j'ose dire. Je reçois tout d'elle. Mais j'insiste, parce que c'est très important de comprendre ça, et de comprendre que c'est un acte d'intelligence, un acte de sagesse, que je puis découvrir. Tout être intelligent peut affirmer ça. C'est pas une grâce. Oui, c'est une grâce au sens très vaste, très, très large, puisque je crois qu'entrer en métaphysique, c'est une grâce. Mais c'est pas une grâce surnaturelle. C'est une grâce humaine d'éclosion de mon intelligence dans ce qu'elle a de plus spirituel. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'y arrivent pas. C'est vrai. Parce qu'elles n'ont pas le temps d'y réfléchir. Parce qu'elles n'ont pas fait l'effort d'y réfléchir. Il faut remonter à la source. Il faut accepter que cette source, elle demeure cachée. Et qu'elle est nécessairement cachée. Ça qui est très étonnant. Donc, Dieu est un Dieu caché parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Créateur. Parce qu'il est avant moi. Un être qui est avant moi, mais toujours caché. S'il est substantiellement avant moi, je ne peux que le suivre. Et Dieu, je ne peux que recevoir son influx. Et donc être là, celui qui reçoit. Cette attitude, donc cette connaissance, réclame un acte de volonté. Cet être premier, mon créateur, il me donne gratuitement l'existence, la vie, l'intelligence, cette capacité d'aimer. Et donc il suscite en moi un amour radical, un amour qui vient directement vers lui. Un amour pauvre. Puisque je ne peux pas l'atteindre dans l'égalité. Cette source, elle me dépasse infiniment. Je dois accepter de l'aimer dans la gratuité. À tout acte gratuit répond une gratuité. Et je ne peux atteindre la gratuité que par la gratuité. Impossible autrement. Et donc ça exige de moi une attitude toute nouvelle au point de vue affectif, au point de vue de l'amour. Ça exige d'être radicalement le mendiant qui reçoit tout. Et effectivement, c'est une attitude que je ne peux avoir qu'à l'égard de Dieu, qu'à l'égard du Créateur. Puisque cet acte est premier, il a son originalité unique, il exige de moi d'avoir une attitude unique, originale, à l'égard de lui. Que je ne peux avoir qu'à l'égard de lui. C'est un amour reconnaissant ma totale réceptivité. Je reçois tout de lui. Qui reconnaît cette totale dépendance. Et donc cet amour qui est un amour de mendiant, implique l'effacement. Je m'efface en face de lui. Je ne dis pas je m'écrase. Je m'efface en face de lui. Et je n'existe pleinement dans la vérité qu'en m'effaçant dans lui. Je ne suis vrai, affectivement, que dans cette attitude. Si je me dresse en face de lui comme égal à lui, je ne suis plus dans la vérité. Donc, c'est un au-delà de toute justice. C'est un amour pur. Un amour de mendiant. C'est très curieux de voir comment naît cet amour. La naissance de cet amour, reconnaître que tout vient de lui. Et j'aime reconnaître cela. Il ne peut pas y avoir une rivalité à l'égard du Créateur, puisque tout vient de lui. Il ne peut pas y avoir de jalousie, tout vient de lui. La rivalité et la jalousie ne peut être qu'un mensonge, une erreur, et une erreur radicale qui m'interdirait d'être vrai. Donc cet amour fondamental de l'adoration implique cet effacement. Je suis vrai. Que lorsque je m'efface devant lui, en le laissant passer devant, et en reconnaissant que c'est lui seul qui peut passer devant, l'acte d'adoration implique donc un amour de mendiant qui s'efface pour être dans la vérité. Je crois que c'est ce qu'il y a de premier dans l'adoration, ce total effacement. Vous voyez, je retrouve là, parce que faut être attentif à certains aspects, je retrouve là la caricature de Sartre à propos de la néantisation. L'acte acte d'adoration n'est pas une néantisation. Mais je vois très bien comment, si je la sécularise, si je sécularise cette attitude-là, je dirais c'est une néantisation. On s'écrase. On veut n'être que relatif à l'autre, en reconnaissant qu'on n'est rien en face de lui. Et donc on se néantise. La néantisation de Sartre, c'est à l'égard de tout autre, n'importe qui d'autre, à l'égard du prochain. Mais l'autre, pour qu'à partir de là naisse la liberté. C'est très cru à la néantisation de Sartre. Mais c'est une caricature de l'adoration. Il faut bien voir que l'adoration, reconnaître qu'on est totalement dépendant d'une source d'être, de vie, de lumière et d'amour, n'est pas une néantisation, puisque c'est remonter à la source qui me donne tout. C'est donc écarter tout a priori. Voudrait me considérer comme premier, tout a priori d'orgueil. Dans l'adoration, je reconnais que je suis totalement dépendant. Donc c'est vrai, tout entier relatif. Mais relatif à l'égard de cette source première. Et non pas relatif à l'égard d'un autre, qui serait une personne humaine. C'est relatif à l'égard de l'autre comme source d'être, de vie, de lumière et d'amour. À l'égard de l'autre créateur. À l'égard de l'autre qui me constitue moi-même et qui veut que je sois capable de reconnaître ce qu'il est. Et donc, moi-même, d'opérer, d'agir librement, à travers la connaissance que j'ai de cette source, et en reconnaissant que cette source me fait vivre, me fait exister, me permet de connaître et d'aimer. Donc, à l'intérieur de cette reconnaissance que je suis totalement dépendant de l'autre, je reconnais que c'est grâce à lui que j'ai mon autonomie. L'adoration me fait découvrir mon autonomie, à la différence de l'anéantisation. L'anéantisation de Sartre, c'est de m'effacer vis-à-vis d'un autre. Être libre à son égard. L'adoration me fait m'effacer en présence de celui qui est premier, qui est source, pour reconnaître que je reçois tout de lui et que par lui, j'ai la possibilité de poser des actes qui proviennent de moi et qui sont libres. L'adoration est un acte de liberté dans l'amour. Je ne peux adorer que librement. Je ne peux pas adorer étant forcé d'adorer. Ce ne serait plus l'adoration. Donc c'est pour ça que l'adoration implique nécessairement la reconnaissance de notre propre autonomie dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de l'amour. Adorer en étant forcé d'adorer, c'est méconnaître l'adoration. Il faut adorer, hein, à la manière de Kant. au niveau d'un premier amour que j'accepte pleinement et que je reconnais comme fondamental à toute ma vie. Et donc, c'est libre. Alors comprenons bien, je suis en face d'un acte de liberté, non pas de choix, mais d'exercice. Je peux me détourner de cette source, mais je ne peux pas la nier. Elle s'est imposée à moi. Au point de vue tradition, elle s'est imposée à moi au plan de la connaissance. Donc je ne peux pas la nier. Il n'y a pas une liberté de choix, il y a une liberté d'exercice. Je peux accepter d'être attiré par elle. Je peux accepter de me détourner d'elle. Il y a une liberté fondamentale dans l'acte d'adoration. Et cette liberté fondamentale, c'est une liberté d'exercice qui repose dans la reconnaissance que tout provient de cet être premier, source de mon être, source de ma vie. Vous voyez, c'est peut-être cela qui est de plus étonnant dans l'adoration. C'est que dans l'adoration même, j'expérimente ma liberté dans ce qu'elle a de plus fondamental. C'est un acte d'amour libre. Je me laisse attirer par cette source qui m'attire, que je ne peux pas voir, qui reste obscure, mais qui est présente. Et je me laisse attirer en acceptant de poser un acte dans l'ignorance de ce qu'est cette source en elle-même. Je sais qu'elle existe, et je le sais d'une certitude absolue, d'une certitude philosophique absolue. Mais j'ignore qui elle est. Vous voyez, il y a une non-connaissance dans l'adoration. Et c'est pour ça que l'adoration va impliquer l'adoration de tout mon être comme vivant au niveau de l'esprit. Je reconnais que c'est l'amour qui passe avant la connaissance, dans l'adoration. Et c'est pour ça que l'adoration me met dans cette attitude d'humilité radicale. Je reconnais que l'amour va plus loin que la connaissance, quand j'adore. Et que l'adoration implique l'offrande de mon intelligence à l'égard de celui qui est source de mon intelligence. J'accepte de l'adorer sans connaître ce qu'il est, en lui faisant donc une totale confiance. Je me remets entre ses mains, in manus tuas. Je me remets entre ses mains. Je reconnais que lui seul peut exiger cela de moi, parce qu'il est la source de mon être, de ma vie, de mon intelligence et de mon amour. Je ne pourrais faire ça à l'égard d'aucune autre personne. Le Créateur réclame de moi une attitude unique et tout à fait caractéristique, qui est l'adoration. Il faut donc découvrir ce qu'il y a d'origine.